La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Durant les deux dernières présentations de cette série d'études sur les commandements de Dieu, nous avons considéré le premier commandement ou la première parole de l'Alliance. Et après avoir considéré cette première parole, ce premier commandement, penchons-nous maintenant sur le deuxième commandement, lequel nous lisons en Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Je vous invite à vous rendre avec moi en Exode chapitre 20, verset 4, et nous lirons du verset 4 au verset 6. Et là, il nous est dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sous la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce commandement, ou cette parole de l'Alliance, se divise en deux parties. La première partie est la prohibition, qui précède la conjonction exprimée par le mot « car ». Et la deuxième partie est la raison de cette prohibition, qui, elle, suit la conjonction « car ». Durant cette présentation, nous allons nous focaliser sur la première partie, c'est-à-dire la prohibition. Et afin de mettre en lumière l'esprit, nous allons, point par point, mettre en évidence la lettre de ce commandement. Étroitement associé au premier, le deuxième commandement se focalise sur l'interdiction de créer une représentation imagée de la divinité, mais également de créer, mais également d'en accepter. D'accord? Étant donné que l'adoration des dieux païens est proscrite par le premier commandement, nous pouvons conclure alors que les idoles mentionnées ici, car le terme image taillée a pour signification idole, eh bien, nous pouvons conclure que les idoles mentionnées ici ne sont pas uniquement celles des dieux païens, mais également celles destinées à être des représentations de Jéhovah lui-même, des représentations du Dieu de la Bible, mes amis. Du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En effet, telle est la manière dont les autres nations représentaient leur Dieu en leur faisant des idoles. Or, une telle théologie n'avait pas et n'a pas et n'aura jamais sa place dans l'adoration de l'Israël de Dieu, car cela instaure une confusion entre le Créateur et la créature. Ainsi, alors que le premier commandement met l'emphase sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu en interdisant l'adoration des dieux étrangers, le deuxième met l'emphase sur la nature spirituelle de son adoration en interdisant l'idolâtrie. C'est ce que Jésus expliqua à la femme qui était issue d'un peuple idolâtre, c'est-à-dire la Samarie. Et nous lisons cela en Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Je vous invite, mes amis, à ouvrir vos Bibles avec moi. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, et là, nous allons considérer les versets 23 et 24. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Nous lisons là que « Mais l'heure vient, dit-il à la femme, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, verset 24, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ici, mes amis, la véritable, notez, je vous invite à noter que la véritable adoration se fait en esprit. En esprit. Et en vérité. Les deux sont combinés, esprit et vérité. Le mensonge n'a pas sa place, mes amis. Le mensonge n'a pas sa place. Retenez bien ce que nous venons de dire à l'instant. Dans le commentaire que nous avons apporté à cette lecture. Retenez bien ça, mes amis. Retenez-le bien, car nous allons le retrouver dans quelques instants. Le deuxième commandement concerne donc les ordonnances du culte ou la manière selon laquelle Dieu est adoré. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le fait que le commandement, le deuxième commandement nous parle eh bien, du ciel, de la terre, de l'eau. Oui, parce que les idoles, tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune représentation de tout ce qui est dans le, sur la terre, dans le ciel, dans l'eau. Cette triple division, ciel, terre, eau, eh bien, elle couvre l'ensemble du monde physique à partir duquel les païens tirent et façonnent leurs idoles. En effet, l'apôtre Paul lui-même aussi se réfère à cette triple dimension, okay, du monde physique, l'eau, la terre et le ciel. En Romains, chapitre 1, versets 22 à 23. Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 22 et 23, où il nous est dit, là, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, car ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles. » Voyez-vous? Cela, l'apôtre Paul également fait mention de cela. Et il est important de comprendre cela, hein? Car, voyez-vous, l'idole était souvent destinée à être à représenter la déité ou tout du moins certains attributs ou certaines caractéristiques de la déité. Par exemple, en Égypte et en Canaan, un taureau était souvent employé pour représenter la puissance de la déité. C'est la raison pour laquelle, en Exode chapitre 32, je vous invite à vous rendre avec moi, en Exode chapitre 32, nous lisons au verset 4 que les enfants d'Israël, ou tout du moins que Aaron a fait un veau d'or pour eux. Il nous est dit là, donc, il les prit de leurs mains, donc tout l'or qu'il leur avait apporté. Il les travailla au ciseau et en fit un veau de fonte. Alors ils dirent, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ainsi, la raison pour laquelle un taureau a été représenté, c'est parce que dans les nations païennes, mes amis, la forme qui était faite de l'idole, qui était donnée à l'idole, était souvent là où l'objectif était de caractériser, de mettre en avant tout du moins un attribut ou une caractéristique de l'idole. Et ici, un taureau, le taureau représentait la puissance de la déité, puisque Aaron dit, voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Donc la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait un veau, parce que dans les nations païennes, cela représentait cela en fait. Donc nous avons ici un exemple biblique, et je vous laisserai le soin de démasquer les idoles que ce monde renferme. Des idoles semblables à celles-ci, d'accord? Où on prend un animal et on le fait comme symbole, et vous avez tout dans la franc-maçonnerie, dans tout ce genre de société secrète, vous avez différents aspects d'animaux, différents animaux qui sont pris comme symbole. Et en fait, tout cela représente des caractéristiques de la déité que ces gens-là adorent et qu'ils veulent mettre en avant, en fait. D'accord? Sachez toutefois que le deuxième commandement n'est pas une interdiction catégorique de l'emploi des sculptures et des images dans la religion. Je reprends. Sachez toutefois que le deuxième commandement n'est pas une interdiction catégorique de l'emploi des sculptures et des images dans la religion. En effet, l'art ainsi que les représentations employées dans la construction du sanctuaire, tel que nous le lisons en Exode 25, versets 17 à 22, du temple de Salomon, en 1 Rois 6, versets 23 à 26, ainsi que dans le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, en Nombre, versets 21, 8 et 9, eh bien, cela montre clairement que le deuxième commandement ne proscrit pas l'illustration religieuse matérielle. Ce qui est condamné, en vérité, dans le fond, ce qui est condamné, c'est la révérence, c'est l'adoration qui est rendue à ces statues et à ces images. Et là-dessus, quand nous disons cela comme ça, là-dessus, certains diront qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord car ils n'adorent pas les dizaines de statues qu'ils ont dans leur lieu de culte, lesquelles représentent différents saints, différentes personnes qu'ils qualifient de saints, mais aussi le Fils de Dieu et Jésus lui-même et encore d'autres personnages bibliques. Mais voyez-vous, cette excuse va à l'encontre de la partie du commandement disant « Tu ne te feras point d'image taillée. » Lorsque je dis cela, quelqu'un pourrait dire que je me contredis. En me disant « Mais alors, pourquoi Israël a eu des représentations ?» Vous venez de le dire. Dans le sanctuaire, dans le désert, dans le temple de Salomon, Moïse lui-même a fait un serpent d'airain. Pourquoi, d'un côté, ils ont eu des représentations, cela n'a pas été une transgression du deuxième commandement, et d'un autre côté, lorsqu'il y a des statues dans une église catholique, cela est une transgression du commandement. Pourquoi? Remarquez, premièrement, que toutes les fois où le peuple de Dieu eu des représentations imagées, taillées, avec l'approbation de Dieu, ce fut sous la demande expresse de Dieu, mes amis. Remarquez, dans le sanctuaire, ce qu'il y avait dans le sanctuaire, l'arche de l'Alliance, les chérubins qui étaient sur l'arche, c'était des images taillées, mes amis. Oui, c'était des images taillées, il ne faut pas se la cacher. Mais c'est Dieu qui l'avait commandé. Dieu l'avait commandé. Le serpent d'Égypte aussi, c'est Dieu qui l'avait commandé. La première chose qu'il nous faut remarquer, c'est que c'est Dieu qui le demande. Et suivez les autres points. Et nous allons mettre ce premier point-là en relation avec les autres points. Et vous allez comprendre, mes amis, il n'y a pas de contradiction dans le second commandement. Il n'y a pas de contradiction entre le second commandement et ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Aucune contradiction. La deuxième raison, remarquez que, en deuxièmement, que ces représentations que Dieu a demandées n'étaient pas destinées à être constamment maintenues sous les yeux du peuple. Non, non. Non. En effet, l'arche de l'Alliance et ses chérubins n'étaient pas visibles par le peuple, mes amis. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui la voyait un jour dans l'année. Et quant au serpent d'airain, sa représentation fut ponctuelle. Du moins, sa présentation fut ponctuelle. En effet, c'était un moment bien précis que Moïse devait leur mettre ça, devait le placer devant eux pour leur enseigner une leçon, mes amis. Mais jamais cela ne devait faire partie du culte des enfants d'Israël. Et de plus, le serpent d'airain fut finalement brisé par le roi Ézéchias, car les enfants d'Israël l'idolâtraient. D'après ce que nous lisons, et je vous invite à vous rendre avec moi en 2 Rois, chapitre 18, verset 4. Où nous rendons-nous? En 2 Rois, chapitre 18, verset 4. Et en 2 Rois, chapitre 18, verset 4, nous pouvons lire que Ézéchias ôta les hauts lieux, il mit en pièces les statues, il abattit les images d'Achéra, et brisa le serpent d'airain que Moïse avait fait, parce que jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël lui faisaient des encensements et on le nommait Nehushtan. Voyez-vous, Ézéchias, animé du zèle du Seigneur, a brisé le serpent d'airain parce que les enfants d'Israël idolâtraient. Donc, voilà mes amis. Et troisièmement, Dieu n'a jamais ordonné à Israël de se fabriquer une représentation de lui-même, ainsi que de Jésus. Jamais, jamais. Dieu a demandé des chérubins parce qu'il voulait leur enseigner quelque chose à travers le sanctuaire terrestre. Il leur a demandé cela. Un serpent d'airain, mais à aucun moment, mes amis, jamais, jamais, Dieu n'a demandé de faire des représentations de lui ou de Jésus, à aucun moment. Donc voilà les trois raisons, mes amis, qui nous montrent que ce qui a lieu dans les différents lieux de culte de l'Église de Rome, n'a aucun rapport à voir avec ce que Dieu avait demandé en Israël. Et ainsi, les enfants d'Israël, en respectant la manière dont Dieu voulait que les choses soient, ne transgressaient pas le deuxième commandement, mes amis. L'emploi des statues dans l'Église de Rome jusqu'à ce jour est donc tout simplement contraire à la lettre du deuxième commandement. Mais loin de se repentir de cette erreur, ils sont allés encore plus loin. En effet, dans tous les catéchismes et livres de dévotion qu'ils placent entre les mains des croyants, ils omettent ce commandement en joignant sa raison au premier. En omettant la prohibition, ils mettent directement la raison en le joignant au premier. Et ainsi, ils font le troisième devenir deuxième, le quatrième devenir troisième, et etc. Et, afin de préserver un décalogue, il divise le dixième commandement en deux. Et c'est ainsi qu'ils se sont rendus coupables, et qu'ils sont encore coupables, de cette transgression, dans laquelle il persiste et au sujet de laquelle il ne supporte pas le fait d'être repris. Voilà comment, mes amis, l'Église de Rome, voilà comment ils ont enlevé, mais également ajouté à la parole de Dieu concernant la manière d'adorer. Et loin de s'être arrêté à la lettre, l'Église catholique romaine s'est également engagée dans la transgression de l'esprit du deuxième commandement. Je vous invite à vous rendre avec moi afin de pouvoir considérer ce point dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42. Rendons-nous ensemble dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42 et au verset, et lisons le verset 17. Ésaïe, chapitre 42, verset 17. Mais ils reculeront et seront couverts de honte, ceux qui se fient aux images taillées, qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. L'idole était non seulement considérée comme l'emblème, mais également comme étant l'incarnation réelle et véritable de la déité. D'une certaine manière, l'essence de la déité était considérée comme étant localisée et concentrée dans l'idole. La déité devenait donc accessible, mais aussi potentiellement contrôlable par l'adorateur. Permettez-moi de vous dire, mes amis, et tout du moins de vous annoncer que l'Eucharistie fait partie de l'arsenal idolâtre de la papauté. Cette institution, qui est qualifiée de sacrement par l'Église catholique romaine, n'a rien à voir avec la communion fraternelle qui, elle, se constitue du lavement des pieds et du souper du Seigneur, que certains protestants appellent la Sainte Cène. En plus d'ôter aux croyants le lavement des pieds et de symboliser le sang par du vin fermenté, l'Église catholique romaine affirme que l'hostie n'est pas simplement l'emblème, mais le corps littéral de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils affirment qu'à chaque messe, le prêtre aurait le pouvoir de faire descendre Jésus du ciel pour le sacrifier sur l'autel. Mes amis, cela est vérifiable dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils écrivent. Et si vous connaissez des catholiques, des personnes qui ont été élevées dans la religion catholique, telles que moi, eh bien, ces personnes-là, telles que moi, pourront vous dire que depuis tout petit, on leur dit de ne pas mâcher l'hostie parce que c'est le corps du Christ. Or, la prophétie disait quoi? Qu'aucun de ces os ne serait brisé. Et comme l'hostie est considérée comme étant littéralement le corps du Christ, il ne faut pas le mâcher, il faut l'avaler. Il faut le laisser fondre dans la bouche, mes amis. Voilà en quoi repose la folie de l'idolâtrie. Dans le fait que l'idole est simplement le produit de l'habileté humaine Et étant donné qu'elle est inférieure à l'homme, elle est donc soumise à lui. Et oui, les prêtres catholiques se targuent de pouvoir faire Jésus descendre du ciel à chaque messe pour le sacrifier. Le Jésus dont il parle, dont l'Église catholique parle, est donc une idole. Ce Jésus-là est donc une idole. Car ils ont un pouvoir sur lui. C'est pour cela que je vous invite à présent à considérer la plus grande idolâtrie mise en place par l'Église catholique romaine. Rendons-nous dans le 40e chapitre du livre du prophète Ésaïe, deux chapitres en arrière. Nous avons lu le chapitre 42, maintenant rendons-nous dans le chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. Et là, nous allons lire du verset 18 au verset 21. Ésaïe 40, du verset 18 au verset 21. À qui donc feriez-vous ressembler Dieu? Et par quelle image le représenterez-vous? L'ouvrier fond une idole, et l'orfèvre étend l'or par-dessus, et lui fait des chaînettes d'argent. Celui qui ne peut offrir beaucoup choisit un bois qui ne pourrisse point et cherche un ouvrier habile pour fabriquer une idole qui ne branle pas. N'aurez-vous point de connaissance? N'entendrez-vous point? Ne l'avez-vous pas appris dès le commencement? N'avez-vous pas compris comment la terre fut fondée? Et si nous continuons au verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Je m'arrêterai là dans le verset 22. La seule manière pour l'homme, mes amis, de s'engager dans la véritable adoration est de diriger ses pensées vers celui qui est plus grand que lui, c'est-à-dire vers son Créateur. Et à ce propos, de manière à ne pas être trompé sur quoi que ce soit, nous avons besoin de savoir, d'être au clair sur la création. C'est pour cela que je vous invite à vous rendre avec moi en Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Et nous lirons également le verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sous les poissons de la mer, et sous les oiseaux des cieux, et sous le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. Remarquez que ici, ce qui a été créé à l'image de Dieu, c'est l'homme, deux points, mâle et femelle. Le couple, mâle et femelle, est l'entité qui a été créée à l'image de Dieu. Alors, je voudrais vous poser une question maintenant. Qui est-ce qui a parlé? Qui est-ce qui a créé? Qui est celui qui a dit « Faisons l'homme à notre image » et à qui l'a-t-il dit? Est-ce que vous savez ce qu'est le chiffre 7? Ce que représente le chiffre 7? Le chiffre 7 représente la plénitude. Car en 7 jours, Dieu a créé tout et tout était bon. Donc, tout a été créé. Le chiffre 7 représente la plénitude, mes amis. Ok? C'est la raison pour laquelle je vous dis cela. C'est parce que nous allons prendre 7 textes bibliques. 7 textes. De manière à pouvoir répondre à cette question. Qui est celui qui a dit et à qui l'a-t-il dit? Ok? Commençons notre investigation dans le livre des Proverbes, au chapitre 30. Nous allons opérer cela assez rapidement. Nous allons juste lire sans faire de commentaires et nous allons passer à chaque fois. Proverbes, chapitre 30, versets 1 à 4. Proverbes, chapitre 30, versets 1 à 4. Parole d'Agur, fils de Jaki, sentence que cet homme prononça sur Itiel pour Itiel et Ukal. Certainement, je suis le plus borné de tous les hommes. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance de ce qui est saint. Qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Premier texte. Deuxième texte, Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Je vous l'ai dit, nous allons juste lire les textes, sans faire de commentaire. L'évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, je vais reprendre avec ce que nous avons appris lors de la première présentation. Au commencement était la parole. La parole était avec le Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec le Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok? Troisième texte. 1 Corinthiens. Rendons-nous en 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Pendant que nous lisons, laissez les textes résonner dans votre tête et vous dire qui, avec qui a créé, avec qui. D'accord? 1 Corinthiens 8, verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Okay. Quatrième texte, rendons-nous en Éphésiens, chapitre 3, verset 9. Éphésiens, chapitre 3, verset 9. De mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Qui a créé toutes choses par Jésus-Christ? Ok. Cinquièmement, Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Verset 15 et 16, excusez-moi. C'est lui, Jésus, qui est l'image du Dieu invisible. Le premier né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Sixième texte. Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 1. Et au chapitre 1, considérons le verset 1 et 2. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Et septièmement, le verset 8 à 10 du même chapitre Hébreux chapitre 1, verset 8 à 10. Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voilà, mes amis, la plénitude de l'enseignement biblique. Voilà quelle est la plénitude de l'enseignement biblique de la création. Selon la Bible, mes amis, Dieu, qui est appelé le Père, a tout créé avec Jésus, son Fils. Et plus précisément, il a tout créé par Jésus. Mais malgré la simplicité de cet enseignement, l'Église catholique romaine nous enseigne, et ce avec le soutien de la quasi-totalité des autres églises chrétiennes, que le Dieu créateur est une trinité. Selon ce dogme, Dieu possède trois parties. Une partie est appelée Père, une autre Fils et une autre Saint-Esprit. Ces trois parties ou personnes forment un seul grand être. Et cet être possède toute la puissance, toute la connaissance. Et il a toujours existé avec ces trois parties ou personnes. Mais, mes amis, combien de textes nous disant que Dieu a tout créé par son Fils avons-nous lu? 7. Je voudrais vous poser une question. D'où vient la foi? L'apôtre Paul, en Romains chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, si on résume, la foi provient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de toute foi. La parole de Dieu est la source de toute foi. Je suis d'accord. Mes amis, en acceptant les 7 textes bibliques qui nous disent que Dieu le Père a tout créé par Jésus, nous exerçons la foi. Donc, de grâce, ne laissez personne vous dire qu'en croyant ainsi, vous ne marchez pas par la foi. En effet, telle est l'accusation que vous lanceront les églises qui croient en la Trinité. Car elles disent, et oui, elles disent, car mais la Trinité ne s'accepte que par la foi. Mais voilà la source de la foi. Mes amis, permettez-moi de vous dire que ces églises n'ont pas un seul texte biblique disant explicitement qu'il y avait trois êtres lors de la création. Non. Il est donc manifeste que la Trinité est le fruit de l'imagination. Et voyez-vous, notre adoration doit être gouvernée par le pouvoir de la foi et non par le pouvoir de l'imagination. Si nous acceptons la doctrine de la Trinité ou n'importe quelle doctrine contraire à la divinité qui est révélée par les 7 textes bibliques que nous avons pris ou celle qui est mise en lumière, qui a été mise en lumière, la divinité qui a été mise en lumière durant l'étude que nous avons faite du premier commandement, lors de la première partie, eh bien, mes amis, nous nous engageons alors dans une fausse adoration. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. L'acceptation d'une fausse doctrine concernant Dieu revient à s'engager dans une fausse adoration. Si je me permets de dire cela, mes amis, que le simple fait d'accepter une fausse doctrine concernant Dieu revient à s'engager dans une fausse adoration. Si je me permets de dire cela, mes amis, c'est parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit cela. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit que l'idole peut être une fausse doctrine. En effet, en Jérémie, chapitre 30, et du verset 3 à 5, ainsi qu'au verset 8, je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 10, et nous lirons du verset 3 à 5, ainsi que le verset 8. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 10. Et commençons la lecture avec le verset 3. « Car les statues des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille à la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne vacille point. Ils sont semblables, ces dieux, à une colonne faite autour, et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne font point de mal, comme aussi faire du bien n'est pas en leur puissance. » Et lisons le verset 8 à présent. Ils sont tous ensemble, abrutis et insensés. Ce bois n'enseigne que vanité. Le terme qui est traduit au verset 8 par enseigne ne vient pas d'un verbe, mes amis. Car ici, le traducteur a mis enseigne comme un verbe. Mais dans l'hébreu, ce n'est pas un verbe, mes amis. Cela ne vient pas d'un verbe, mais d'un nom. D'un nom, lequel est Moussar. Et ce nom hébreu, Moussar, peut signifier réprimande, instruction, correction, mais également doctrine. Ainsi, une traduction rigoureuse et respectueuse du texte original reviendrait à lire la fin du verset 8 de manière suivante. Ce bois, virgule, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, donc on mettrait une virgule. Ce bois, virgule ou deux points, une doctrine des vanités. Voilà, comme à la fin du verset 8, se lirait, si l'on traduit rigoureusement, respectueusement le texte, ce bois, doctrine de vanité, ou ce bois est une doctrine de vanité. Si ça revient au même, en fait, dans le sens. Et continuons notre lecture au verset 9. C'est de l'argent en plaques apporté de Tarsis et de l'or du phase, l'œuvre du sculpteur et des mains de l'orfèvre. La pourpre et l'écarlate sont leurs vêtements. Tous ils sont l'ouvrage de gens habiles. Et sautons maintenant et poursuivons la lecture à partir du verset 14 jusqu'au verset 16 à présent. Tout homme est abruti dans sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car les idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point de respiration en elles. Elles ne sont que vanité, œuvre de tromperie. Elles périront au temps où Dieu les visitera. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. Son nom est l'Éternel des armées. Si nous devons résumer Ce que nous avons vu dans ce 10e chapitre du livre du prophète Jérémie, nous devons dire que, tout comme l'idole, la fausse doctrine est le produit de l'œuvre humaine. Elle a également besoin d'être embellie par la philosophie. Et il faut également la fixer avec des textes bibliques pour l'empêcher de vaciller. Et après s'être donné tout ce mal, celui qui l'a conçu, le théologien, et ceux qui l'acceptent, les croyants, eh bien, ils sont également tous abrutis par ce mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de respiration en elle, mes amis. Le terme traduit au verset 14 du 10e chapitre du livre du prophète Jérémie par « respiration » vient du nom hébreu « ruah ». Et ce terme est souvent employé en référence au vent, au souffle de vie qui anime les êtres vivants, mais également à l'esprit de l'homme, ainsi que l'esprit de Dieu. Et c'est ce terme qui est également présent en Habacuc chapitre 2. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre du prophète Habacuc au chapitre 2. Où nous rendons-nous? En Habacuc chapitre 2. C'est cela. Et pour ceux qui ont des soucis pour se repérer, Habacuc est avant Sophonie. En clair, c'est bien après Daniel. D'accord? Vous avez Daniel, vous avez Osée, vous avez Joël, vous avez Amos, vous avez Miché, vous avez Jonas, ou du moins Jonas Miché, vous avez Nahum, et après Nahum, vous avez Habacuc. Voilà, tout petit livre, Habacuc. Tout petit livre de 3 pages, de 3 chapitres. Et en Habacuc, arrivé ici, considérons le verset 2 et lisons du verset 18 au verset 19. Et nous allons retrouver ce terme « ruah » en hébreu, traduit différemment cette fois-ci. Habacuc, chapitre 2, verset 18, à 19, verset 18 et 19. Excusez-moi. Et là, il nous est dit « à quoi sert l'image taillée pour que le sculpteur la taille. À quoi sert l'image de fonte, docteur de mensonges, pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance en fabriquant des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, et à la pierre muette, lève-toi. Enseignera-t-elle? Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun esprit en elle. Roi, esprit, c'est le même terme qui était traduit en Jérémie 10 par respiration. Et là, il est dit esprit, il n'y a pas d'esprit en elle. L'idole, mes amis, le docteur de mensonges, ou si vous préférez, la fausse doctrine, le faux enseignement, n'a pas d'esprit. La fausse doctrine n'a pas d'esprit en elle, mes amis. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui l'acceptent en plaçant en elle leur confiance ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu, telle une pluie rafraîchissante. Or, tel n'est pas le cas de la doctrine de Dieu. En effet, en Deutéronome, chapitre 32, verset 2, je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 2 et au verset 2. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 32, verset 2. Il nous est dit là, et lisons même à partir du verset premier. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie. Ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sous la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. La doctrine de Dieu vient de sa parole. Et c'est en acceptant cette dernière que nous recevrons le rafraîchissement, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et voyez-vous, je ne pense pas que tous ceux qui auront une bonne connaissance de Dieu recevront ce rafraîchissement. Non. Mais je puis vous dire, mes amis, que personne ne sera rempli de l'Esprit de Dieu sans cette connaissance. Nous avons besoin de ce rafraîchissement, mes amis. Surtout si nous souhaitons traverser le temps de détresse. Or, là encore, la croyance en une doctrine idolâtre, telle que la Trinité, ne nous sauvera pas lors du temps de détresse. En effet, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 46 et du verset 5 à 8, nous lisons les paroles suivantes. Ésaïe, chapitre 46, verset 5 à 8. Là, il nous est dit, « À qui me comparerez-vous ? Et qui ferez-vous mon égal ? Avec qui me confronterez-vous pour nous trouver semblables ? Ils répandent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour faire un dieu. Ils l'adorent et ils se prosternent devant lui. » Il le porte, il le charge sur l'épaule et il ne bougera pas de son lieu. Puis on crie à lui, mais il ne répond point et il ne sauve pas de la détresse. À nouveau, je ne pense pas que tous ceux qui auront une bonne connaissance de Dieu seront sauvés du temps de détresse. Mais je puis vous dire, mes amis, que tous ceux qui en seront sauvés auront cette connaissance, cette bonne connaissance de Dieu. Et pourquoi ? Pourquoi cela ? C'est parce que le Dieu qu'ils invoqueront ne sera pas insensible à leurs appels. En effet, en psaume, dans le psaume 115, où nous rendons-nous ? Dans le psaume 115. Et là, nous lirons du verset 4 au verset 7. Psaume 115. Le psaume 115. Du verset 4 jusqu'au verset 7. Psaume 115, versets 4 à 7. Là, nous lisons. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables. Loin d'être une aide à l'adoration, mes amis, l'idole établit une barrière insurmontable pour le raffinement de la perception spirituelle de l'homme. Toutes les idoles, mes amis, toutes les doctrines idolâtres, la Trinité inclue, sont insensibles aux appels qui émanent du plus profond de notre âme. Et c'est pour ça, voilà pourquoi ceux qui les adorent finiront par leur ressembler, tel que nous le lisons au verset 8. Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient, les deux classes, les faux théologiens, mes amis, ceux qui font de la théologie philosophique et qui ne respectent pas la parole de Dieu, ceux qui font les idoles, mais aussi tous ceux qui s'y confient, tous ces membres d'église qui adorent ces idoles qui ont été créées par des mains d'hommes, dans des universités où c'est le monde qui dirige et non pas la parole de Dieu. Eh bien, la Bible déclare, mes amis, que ces deux catégories-là leur seront semblables. Alors, ils vont ressembler à leur idole. Et oui, un homme ne s'élève pas plus haut que l'objet de son adoration. Si nous cherchons Dieu, mes amis, à travers des doctrines d'origine humaine, nous aurons alors une connaissance de Dieu imparfaite. C'est pour cela que l'auteur du Décalogue refuse d'être adoré à travers des images ou des représentations faites par la main de l'homme. En édictant ce commandement, il souhaite nous faire comprendre qu'il est le seul capable de communiquer une représentation parfaite de sa personne. Et cette connaissance parfaite de sa personne resplendit sous le visage de Jésus-Christ. Tel que l'apôtre Paul nous le dit en 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 14 à 18. Où nous rendons-nous à présent? En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14 à 18. C'est bien cela. Et là, lisons attentivement. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. Là, on parle des Juifs. Car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sous la lecture de l'Ancien Testament, sans être enlevé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Verset 15. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur, de qui parle-t-on ici? Du Christ. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Et maintenant, lisons le verset 18. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, ça veut dire tous ceux qui ont accepté le Christ, pas comme les Juifs qui l'ont rejeté, mais tous ceux qui ont accepté le Christ, et les Juifs qui l'ont accepté aussi, tous ceux qui ont accepté le Christ, mes amis. Donc, ils ont un visage découvert, ils n'ont plus ce voile. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus-Christ, je rajoute pour votre compréhension. Eh bien, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et comme nous l'avons lu en Colossiens chapitre 1, verset 16 ou 15, eh bien, mes amis, Christ est la seule image que Dieu approuva de sa personne. Christ est la seule image de sa personne que Dieu a approuvée. Et il le redit, l'apôtre Paul, au chapitre suivant, au verset 4. Vous avez juste qu'à baisser vos yeux au verset 4 du chapitre 4. « pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Encore une fois, permettez-moi de vous répéter cela, mes amis. Christ est la seule image de sa personne que Dieu le Père, le Très-Haut, l'Ancien des Jours, approuva et approuve encore. La seule image. Ainsi, Jésus-Christ est la seule image légitime de Dieu. La seule image qui représente fidèlement Dieu dans son caractère, si bien qu'il pouvait dire que « Celui qui m'a vu a vu le Père » en Jean 14, verset 9. Et oui, il pouvait le dire, car il est la seule image légitime, la seule image qui représente Dieu fidèlement dans son caractère. Et oui. L'esprit que nous recevons, que nous recevrons, sera l'esprit de celui que nous contemplerons. Or, celui que Dieu veut que nous contemplions est son image, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que la bête et son image veulent dérober à nos yeux quand elles conduisent le monde dans l'idolâtrie par la doctrine de la Trinité. Mes amis, il ne doit pas en être ainsi. Rendons-nous et en texte de conclusion, rendons-nous en 1 Jean, chapitre 5, versets 19 à 21. Où nous rendons-nous? En 1 Jean, chapitre 5, et nous allons lire les trois derniers versets de ce chapitre, versets 19 à 21. 1 Jean 5, 19 à 21. Là, il nous est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Si vous souhaitez ne pas prendre la marque de la bête et de son image, en raison d'une transgression des deux premiers commandements, je vous invite, mes amis, dans ce cas, à écouter la voix de Dieu, qui vous implore, qui vous supplie, qui vous demande de contempler son Fils. Car c'est la seule manière de se garder des idoles. Alors, de grâce, mes amis, contemplez Jésus, contemplez son Fils, notre Sauveur, notre adorable Sauveur Jésus-Christ. Car il est notre seule sûreté, mes amis. Si nous ne le contemplons pas comme étant le Fils de Dieu, tel que la Bible le révèle, mes amis, nous sommes alors sur un terrain enchanté. Nous sommes alors une proie de l'adversaire. Et l'adversaire nous conduira dans l'idolâtrie, mes amis. Il ne doit pas en être ainsi. Nous avons le Fils de Dieu, Jésus. Alors contemplons-le, mes amis. Contemplons notre adorable Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin d'être gardés de toute idolâtrie, mes amis. Car il est la seule image que Dieu approuve. Il est l'image de Dieu. L'image que Dieu veut que nous contemplions. L'image qui est à la ressemblance de Dieu. L'image qui provient de Dieu. L'image qui ne provient pas de l'homme, mes amis. cette image est d'origine divine. Or, le commandement, le deuxième commandement, proscrit les images d'origine humaine, mes amis. Alors, contemplons le divin Fils de Dieu, lui qui nous permet d'être transformés à l'image de Dieu, car il est l'image de Dieu. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.